Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Jérémie au chapitre 29 au verset 13. C'est de là qu'on va partir par rapport à ce qu'on va partager aujourd'hui et dans les prochaines semaines. C'est un verset qui est très profond. Tiens, je vais lire à partir du verset 11, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 13. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si. » Dis avec moi « si. » « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons nous arrêter pendant quelques temps, pendant quelques semaines, sur un sujet très important. On a tendance à croire que c'est qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Ce sujet, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Nous sommes en temps de jeûne et prière à la maison du bâtisseur. Nous prenons ce temps de jeûne et prière pour la simple bonne raison qu'il y a des choses dont nous devons entrer en possession pour l'Église et pour nos vies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout se passe dans la prière parce que tout est spirituel et toutes les batailles se gagnent d'abord dans l'invisible. Dis encore avec moi la prière. La prière est extrêmement importante. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le Seigneur nous dit dans ce passage, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ce passage-là, quand je l'ai lu, c'est un passage que je connais depuis des années. J'ai souvent parlé, c'est souvent un verset que je cite et que l'on entend souvent sortir dans la bouche de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais c'est une parole qui est très, très, très profonde. Parce que Dieu nous donne ici la révélation du moyen ou encore de la clé que nous devons utiliser pour le trouver et pour qu'il se révèle à nous. Amen. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ce sujet, la puissance de la prière. Dis avec moi la puissance de la prière. La puissance de la prière. Dis-le encore avec moi. La puissance de la prière. Et on va ouvrir notre chapitre. Moi, j'aime bien, dans l'année, c'est des chapitres qu'on lit. C'est comme un livre, l'année, qu'on lit. Hein? Le Seigneur nous emmène par-ci, par-là. Il nous a emmenés pendant 3 mois sur le sujet du mariage. D'accord? 3 mois sur le sujet du mariage. Mais je pense qu'on s'est tellement vidé par rapport à ce sujet-là. On a dit tellement de choses que quand je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, bon, on continue. Il dit, non. Là, spirituellement, l'Église, vous êtes entré dans autre chose là maintenant. Concentre-toi sur ça. Parce que le peuple a besoin d'entendre ça. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup de problèmes à régler, de situations à débloquer. Et comme je le dis souvent, dans toute situation, il y a une clé. Dis avec moi une clé. Une clé. Jésus-Christ a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Et dans toute situation, il y a une clé. Quand tu traverses une situation, ou quand tu demandes quelque chose, ou quand tu as besoin de quelque chose, ou quand tu soupires après quelque chose, cherche toujours à comprendre quelle est la clé qu'il faut pouvoir régler le problème. Et là, quand je suis allé dans la prière, j'ai dit, Seigneur, par rapport à ce que je suis en train de supplier là pour toi, c'est quoi la clé? Il dit, tu connais la clé? La prière. Parce qu'il faut que le bébé vienne au monde. La prière, c'est comme quand une femme accouche. Je le disais hier à ceux qui ont fait les cours bibliques. C'est comme quand une femme accouche. Elle a porté le bébé pendant 9 mois. Le bébé est là. Les 9 mois sont arrivés à terme, mais le bébé ne sort pas. Il faut qu'elle aille sur le lit, l'hôpital, avec les femmes sages et tout, et qu'elle pousse. Il y en a, ça se fait en 1 heure, 2 heures. Hier, il y a quelqu'un qui me... Hier, Christian me disait qu'elle est restée 2 jours à pousser pour pouvoir faire sortir Mathieu. 2 jours, vous imaginez 2 jours couchés en train de pousser. Bon, on fait césarienne ou pas? Non, il faut pousser jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et la prière, c'est pousser. Pousser pourquoi? Eh bien, on va le voir. On va le voir. Ce n'est pas parce que tu mérites le meilleur dans la vie qu'elle va te le donner facilement. Tu vas devoir pousser et te battre pour avoir ce qui est à toi. Amen. Eh oui. Et spirituellement, nous avons tout. Nous avons tout en Christ. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes bénis. Mais pourquoi alors on ne vit pas des vies de bénis? Et l'une des clés très importantes pour pouvoir débloquer ces bénédictions spirituelles dans nos vies, c'est la prière. C'est la prière. Dis avec moi la puissance de la prière. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici la condition. De tout votre cœur. Il est important de comprendre une chose. Il est important de comprendre la différence entre le cœur de Dieu et les mains de Dieu. Dis avec moi le cœur de Dieu et les mains de Dieu. Les mains de Dieu, ce sont ses actions, c'est ce qu'il fait ou encore ce qu'il a fait. D'accord ? Ceux qui s'intéressent à ce que Dieu fait cherchent sans cesse à obtenir quelque chose de lui. Ils étudient ce qu'il a fait dans le passé et veulent qu'il fasse la même chose pour eux aujourd'hui. Vous avez jamais entendu parler des gens qui font église après église, croisade après croisade, prophète après prophète pour avoir toutes sortes de bénédictions. Ils courent après ce que la main de Dieu peut offrir, peut donner. Mais Jésus-Christ nous donne une révélation dans Jean 4, verset 23, lorsqu'il nous dit ce que le Père demande, ce sont des adorateurs, de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. De vrais adorateurs. Parce qu'il y a des faux et il y a des vrais. Les faux, ce sont ceux qui cherchent les mains de Dieu. Ceux qui marchent par intérêt. Ceux qui viennent à l'église par intérêt. Quand l'église ne leur plaît plus, ne leur convient plus ou bien ne leur apporte plus ce dont ils ont besoin, ils s'en vont. Ils ne cherchent pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le cœur de Dieu, ce sont ses pensées ou encore ses voix. Ceux qui cherchent en permanence à connaître la pensée de Dieu au temps présent apprennent à développer avec Dieu une relation d'intimité avec lui. Amen. Et c'était ça la force de David. David avait compris que le plus important, même si je suis roi, ce n'est pas ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu pense à l'instant T là. Et c'est pour ça que David est devenu ce qu'il est devenu, parce qu'un jour, une nuit, il s'est réveillé, préoccupé, 3 heures du matin. Il n'était pas en train de faire beaucoup de bruit dans la maison comme certains, « Seigneur, je te bénis », tout ça. Non, il était tranquille et il disait, « Qu'est-ce que Dieu veut ?» Il arrive à la fenêtre et il regarde l'arche. Et là, une pensée lui vient, « Moi, j'habite dans un palais fait de main d'homme. » Dieu qui a créé les cieux et la terre est dans une boîte. Seigneur, je te ferai une maison. Oh, Dieu dit, ah là, tu m'as vraiment entendu. Comme tous les Gabonais, moi aussi, je veux avoir ma maison. Moi aussi, je veux avoir ma maison. Et dès qu'il a eu cette pensée, Nathan dormait tranquillement dans sa maison. Dieu réveille Nathan et dit, va dire à David. Et on connaît la suite de l'histoire. va dire que le petit a entendu le plus profond de mon cœur. Il a entendu ce que je voulais. C'est un grand homme. Il est dans mon intimité. Et David le savait. Et David, quand il a compris ça, il n'a pas arrêté de chercher les voies de Dieu toute sa vie. Regardez. Psaume 25 au verset 4. David nous dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans la vérité, dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Proverbe 23, 26, c'est Salomon qui parle. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est tout ce que Dieu veut, que l'on cherche ses voies, que l'on cherche ses pensées. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que ce que Dieu désire doit être notre priorité. Ses voies ou encore ses pensées doivent être notre priorité. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Ésaïe, au chapitre, je crois, 55, il dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies ou encore mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Si nous venons à l'église tous les jours, nous prions, nous lisons la Bible, on se bat avec les vicissitudes de la vie, mais quand on regarde notre vie, la question que l'on doit se poser, est-ce que ma vie reflète la pensée de Dieu pour ma vie? Est-ce que les voies de Dieu sont claires dans ma vie? C'est pour cela que j'ai découvert que il y a des gens qui souffrent pour rien en fait dans la vie. Il y a des gens qui souffrent inutilement. Parce que tout simplement, ils persistent dans des voies connaissant la parole de Dieu. Ils persistent dans des voies qui ne sont pas bonnes, alors qu'ils connaissent la pensée de Dieu pour leur vie. Amen. Et pourquoi il est important de chercher à connaître les voies de Dieu pour notre vie et même pour notre génération? Parce que tout simplement, Dieu a un but. Dis avec moi un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Même notre vie, Dieu l'a suscité pour un but. La vie, pour te donner une image, est semblable à un grand puzzle. Dans ce puzzle, tu as ta place. C'est ce que la Bible appelle le plan de Dieu. Un puzzle, quand tu l'achètes, les morceaux viennent dans un sachet. Tout est en désordre et ça ne signifie rien quand tu déballes tout sur la table. Mais quand tu prends puzzle après puzzle et que tu commences à les assembler, ça commence à te constituer une très belle image, n'est-ce pas? Eh bien, la vie, c'est ça. Chacun d'entre nous, nous sommes une pièce du puzzle, du plan de Dieu, et on doit être à notre place parce qu'une fois qu'on est à notre place, on entre dans le but global de Dieu pour notre vie et notre génération. C'est pour cela que chacun doit trouver son appel dans la vie. S'il y a bien une prière que tu dois prier instamment, transpirer, c'est ton appel dans la vie. Et dis avec moi mon appel dans la vie. Ah oui, il faut connaître son appel dans la vie. Parce que si tu ne connais pas ton appel dans la vie, tu risques d'aller faire de grosses erreurs. Tu risques d'aller t'engager dans des projets qui vont te créer des problèmes. Tu risques d'aller t'associer avec les mauvaises personnes. Pire encore, si tu es immature spirituellement, tu es en danger. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a un but. Dieu a un but pour notre génération. Dieu a un but pour la nation gabonaise. Dieu a un but pour les Gabonais. Dieu a un but pour ta vie. Et ton but à toi, c'est d'entrer dans le grand puzzle, le plan de Dieu, et de trouver ta place et d'être à ta place. Et une fois que tu es à ta place, tu complètes à ton niveau la belle image que Dieu veut faire pour notre génération et tu seras heureux. Amen. Dieu a fait toutes choses pour un but. Il y a une chose qui est pire que la mort dans la vie. Il y a une chose qui est pire que la mort. Dis avec moi la mort. Il y a une chose qui est pire que la mort. La plus grande tragédie qui puisse exister dans l'existence d'un homme, c'est de vivre une vie sans but. Voici ce qui est pire que la mort. Ce qui est pire que la mort, c'est de vivre une existence sans signification, sans en connaître le but, sans en connaître la raison. Tu vis au jour le jour sans savoir où tu vas. Les journées passent, les semaines passent, tu es là et tu ne te demandes pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quand il s'agit de lire la Bible ou de prier, les gens ne sont pas, ça ne leur dit rien. Mais si Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, et c'est celui qui a créé ta vie, mais tu dois passer du temps avec lui pour lui demander c'est quoi, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et ça, ça se fait dans la prière. Dis avec moi la prière. Il est préférable d'être mort et d'avoir accompli le but de sa vie que d'être en vie et de ne pas savoir la raison de son existence, c'est-à-dire pourquoi Dieu t'a créé. Vaut mieux être mort. Vaut mieux. Parce que tu risques de vivre toute une vie de confusion. Et tu seras malheureux. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont accompli des choses, qui ont bâti des entreprises, qui ont de l'argent, mais qui se retrouvent après plusieurs années à pleurer parce qu'ils disent « Mais ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai créé des entreprises, j'ai donné des emplois à des gens, etc. J'ai fait des choses, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je me rends compte que j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. » Et ça, c'est grave. Parce que tu te rends compte, tu réalises que tu vas te trouver, tu vas un jour traverser l'autre côté et puis tu vas te trouver devant le trône de Dieu et Dieu va te dire, mais tu as vécu pour toi, mon fils. Tu n'as pas vécu pour moi. Tu as vécu pour toi. Tu as vécu pour tes plaisirs. Tu as vécu pour tes passions. Tu as bâti des choses, oui, que beaucoup d'autres n'ont pas bâti parce que tu avais en toi des dons et des talents et tu as su les exploiter. C'est pour cela que même un païen qui ne connaît pas Dieu peut découvrir ses dons et les exploiter et réussir au niveau professionnel ou sportif, j'en sais rien. Mais s'il ne le fait pas pour la gloire de Dieu, il a échoué. C'est pour cela qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, mais donc ça veut dire que Larry Page et Sergey Brin qui ont créé Google ont échoué alors? Parce que Google, c'est quand même balèze ce qu'ils ont fait, hein. Je dis, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ils ont échoué. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ils ont échoué brillamment. Ils l'ont fait pour eux. Ils ne connaissaient pas le but. Et il n'y a rien de pire que de vivre sans but. Donc, pour découvrir le but d'une chose, c'est très simple. Il faut retourner voir le créateur de la chose. Il faut retourner voir celui qui a créé la chose et lui demander pourquoi tu as créé ça. C'est pour ça que quand on ne connaît pas le but de sa vie, quand on ne connaît pas son appel, on doit passer du temps dans la prière et à chercher Dieu. Et à dire, Dieu, montre-moi, révèle-moi ce que tu attends de ma vie. Où est ma place dans le puzzle, dans ton plan? Et ça, c'est par le biais de la prière. Et c'est pour cela que depuis le jour où j'ai compris ça, même quand je suis fatigué, ça m'arrive aussi d'être fatigué, de ne pas avoir envie de prier. Mais quand je fais un jour sans prier, dans mon esprit, ça fait tilt. Il faut que tu pries, hein. Il ne faut pas t'amuser à rester sans prier. Parce que quand tu ne pries pas, il y a beaucoup de choses qui viennent s'installer dans ta tête là, et tu n'entends plus Dieu, tu ne vois plus Dieu. Et ça devient dangereux pour toi. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Proverbes 19 au verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel ou encore le but de l'Éternel qui s'accomplit. » Dans la version française courant, il est écrit « L'homme élabore de nombreux plans. » Ça, ce n'est pas nous, ça. Tous les jours, on fait des plans. Tous les jours, on met en place des objectifs. Tous les jours, on met en place des projets. Mais assure-toi que tout cela, ça entre dans le cadre du plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que ça glorifie Jésus? Voilà, je veux m'engager dans un projet. Est-ce que ce projet, tu as prié pour ça? Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que ça entre dans le cadre du plan de Dieu pour ta vie? C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dispersés dans tout un tas de choses. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout productifs. Ils élaborent beaucoup de plans, mais ils ne gagnent pas du tout d'argent. Ils ne prospèrent pas. Ils ne s'épanouissent pas. Ils ne sont pas heureux. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils transpirent. Mais ils se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être ça ne entre pas dans le cadre, dans le plan, dans le dessein de Dieu pour ta vie. Amen. C'est très important. Je vais te révéler quelque chose de très important encore. Dieu est plus intéressé par son but que par ton but à toi. Dieu est plus intéressé par son intérêt, son projet divin que par toi. Tout tout ce qui intéresse Dieu, c'est son royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ nous fait le discours, le sermon des béatitudes, Matthieu 6. Il dit, est-ce que vous rajouterez une coudée de plus à votre vie si vous vous inquiétez? À chaque jour suffit sa peine. Arrêtez de vous inquiéter. Ce n'est pas parce que tu es triste que ta vie sera plus longue. Pourquoi vous prenez la tête à tout le temps chercher à manger, à boire et à vous vêtir? Regardez les fleurs, regardez les fleurs. Même les lys sont mieux vêtus que Salomon lui-même. Pourquoi vous vous préoccupez de ces choses? Quand tu parles avec les chrétiens, ils sont aigris, ils se préoccupent des futilités de la vie. Ils ne sont pas spirituels alors que ce sont des êtres spirituels. On parle de crimes rituels, eux aussi ils vont marcher. Ils marchent comme des païens. On ne fait plus la différence entre l'Église et les païens. Les gens n'ont pas compris le but pour lequel Dieu a suscité l'Église. Si Dieu n'a pas détruit le monde là, c'est à cause de l'Église, hein, je vous dis. Hein. Si Dieu n'a pas frappé la nation gabonaise comme d'autres pays qui ont sombré dans la guerre, c'est à cause de l'Église. Parce que Dieu a quelque chose avec cette nation, le Gabon. C'est moi qui vous dis, Dieu a quelque chose avec cette nation. Feu Omar Bongo l'avait constaté à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il a fait ce cri là qu'on connaît tous là. Ne faites pas de, nous n'avons pas le droit de faire de ce pays ce que nous en avons fait. Dieu nous redemandera des comptes. Parce que Dieu a quelque chose avec cette nation. Vous n'avez pas vu comment il y a des accointances entre l'Église et puis tous ces mondes-là depuis des années? Parce que Dieu veut cette nation. Le Cameroun, là-bas, il y a la secte de Boko Haram qui fait le désordre. Le Congo a sombré dans la guerre. La Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre. Centrafrique, n'en parlons même pas. Le Gabon est toujours debout. Vous blaguez. Si l'Église ne prend pas conscience du but pour lequel Dieu permet que ça n'arrive pas ici, on va sombrer. On va sombrer. C'est pour ça qu'il faut prier pour entendre la voix de Dieu. Mais l'Église ne prie pas. Quand on observe le pays actuellement, regardez les programmes des églises. C'est des programmes, ok, gloire à Dieu. Mais on ne cherche pas Dieu. On est dans les divertissements. Le pays, il y a la tension au niveau politique. Pendant ce temps, nous, on fait la fête. Et quand demain, on va venir nous bombarder, ici, oh Dieu, pourquoi tu as permis? Mais parce que vous ne priez pas. Jésus-Christ, avant de partir, a dit aux disciples, aux apôtres, allez par toute la création, à commencer par Jérusalem, et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Eux, parce qu'ils ont vu Jésus-Christ s'élever, ils ont commencé à manger du pain toute la journée. Hérode est venu, il a attrapé Jacques, et puis il l'a coupé la gorge. Oh! La Bible dit que Hérode vit que ça plut au peuple, et il captura Pierre, et il dit, je vais faire la même chose avec Pierre. Mais quand on a attrapé Pierre, les gens disent, eh! Si on a attrapé Pierre, le chef de l'église, là, il faut qu'on prie. Ils ont prié jusqu'à ce que l'ange descende et délivre Pierre. Parce qu'ils ont prié. S'ils n'avaient pas prié, Pierre était foutu. Dis avec moi la prière. Donc, le but de Dieu est plus important que ton but à toi. Qu'est-ce que le but? Le but, c'est l'intention d'origine. C'est la pensée d'origine, c'est la volonté première. C'est la cause qui a motivé la création de la chose, la raison de l'existence d'une chose, le pourquoi. Si tu veux comprendre le but, réponds à la question pourquoi. Tu veux découvrir le but de ta vie, pose-toi la question pourquoi j'ai été créé. Pourquoi HP a créé cet ordinateur? Pourquoi Steve Jobs a créé ce Macintosh? Pourquoi? C'est quoi son but? Si tu commences à prendre cet ordinateur et que tu commences à le mettre par terre et à dire à tes amis, venons, on va jouer au football avec, tu casses, tu vas détruire l'ordinateur parce que ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. De même, pour ta vie, tu dois te poser la question, pourquoi j'ai été créé? Et quand tu ne connais pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Et cela est valable dans tout, même pour ta vie. Qu'est-ce que j'entends par l'abus? J'entends par l'abus, que tu risques de faire des choses qui ne correspondront pas à la raison de ton existence. Tu risques de t'associer à des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé. Parce que tu es quelqu'un qui ne prie pas, alors tu n'entends pas la voix de Dieu pour ta vie. Et tu risques d'aller dans une mauvaise direction et le payer cher. Quand je dis mauvaise direction, je ne dis pas absolument une direction où tu vas souffrir. Hein. Tu peux très bien prendre une voie où tu as l'impression que tu prospères. Tu gagnes de l'argent. On a parlé pendant 3 mois du mariage. Parce que tu connais le but de ta vie et que tu sais que tu ne dois pas le rater, tu dois t'assurer de ne pas te tromper de personne quand tu vas te marier. Parce qu'une personne peut faire de ta vie un enfer ou un paradis. Donc si tu te trompes de personne, elle peut te dévier du but. Et te créer des problèmes. Et te rendre compte après 20 ans ou 30 ans de mariage que tu t'es trompé. Et là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Que quelqu'un dise amen. Donc, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris l'importance de la prière. Et toutes les fois où je n'ai pas prié, sérieusement, je me suis cassé les dents. Toutes les fois où je n'ai pas prié, les amis, je me suis cassé les dents. Il y a des choses que j'ai regrettées parce que je n'avais pas prié. Parce que je n'avais pas su discerner. Parce que je n'avais pas pris le temps de prendre mon temps. Je me suis précipité dans des engagements. Lorsque j'ai créé ma première entreprise avec mon épouse, on a dépensé 30 000 euros. 18 millions de francs CFA. On avait eu une opportunité de récupérer une entreprise. On était solvable. On avait 30 000 euros de liquidité qu'on nous avait donné. On est parti en voyage de noces. Au lieu de prier par rapport à ce business, nous on a fait les noces et on s'est amusé. Comme tous les beaux mariés. Quand on est revenu, on s'est précipité à prendre le business et on ne s'est pas rendu compte que le monsieur non seulement avait falsifié les comptes de résultats et les bilans, il nous avait trompé. On est parti reprendre une entreprise en fait qui était déjà morte. Et on a dépensé tout notre argent. Quand je suis rentré à Libreville, 3 ans après, j'ai regretté mes 18 millions. Parce que 18 millions, mon ami, j'aurais pu acheter un terrain. 18 millions dans une entreprise qui ne nous a rien apporté. On est parti prendre l'entreprise, même le nom de l'entreprise, on n'a pas changé. Parce qu'on trouvait le nom cool. On a dit, on garde le même nom. Dieu dit, mes enfants, vraiment, il a mis les mains sur la tête. Quand il a encore vu qu'on prenait nos 30 000 euros et puis on mettait le nom, il a dit, aïe. Et on a regretté, parce qu'on n'avait pas prié. Aujourd'hui, je nous introduis un sujet qui est très important. Vous avez vu, je prends mon temps. Parce que ce que je vais commencer à expliquer là, c'est très important en ce qui concerne la prière. Pourquoi je vais prendre le temps d'expliquer ça? Parce que les enfants de Dieu pensent que la prière, c'est quelque chose de religieux. Les enfants de Dieu pensent que la prière, c'est quelque chose c'est une habitude. Je vais te prouver, je vais te démontrer au travers de cet enseignement que l'on va voir pourquoi la prière est un fardeau pour toi. Parce que tu n'as pas compris en fait ce qui se passe quand tu pries. Parfois, il y en a, quand on prie, quand j'ai prié avec des gens, au bout d'une demi-heure, ils se lassent, ça commence à les déranger. Je dis, parce que toi, tu n'as pas compris ce qu'on est en train de faire là. C'est pour ça que ça te lasse. Parce que pour toi, tu es en train de faire quelque chose de religieux, de charnel. Nous, on n'est pas dans le charnel, nous, on est dans le spirituel. On sait ce qu'on est en train de faire. Donc, chaque parole qu'on déclare, on sait ce qu'on est en train de prononcer comme parole et on sait où est-ce que ça va. Toi, tu es charnel. C'est pour ça que tu te fatigues. Parce qu'au bout d'un moment, la chair, elle se fatigue. Comment est-ce que tu fais pour prier de minuit à 6 heures du matin, veille de prière, debout, en train de prier? Comment tu fais? Alors que ton corps est fatigué. Parce que spirituellement, ton esprit tient et ton esprit est debout en train de prier. Parce que tout est spirituel. Moi, il y a des fois, je n'avais pas dormi, mais je suis venu, je parlais ici. Mais dès que je prenais le micro et que je me mettais à parler, c'est comme si je retrouvais des forces. Parce que tout est spirituel. Ce n'est pas que je ne suis pas Superman. Parce que tout est spirituel, parce que je prends le temps de prier avant, j'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Mais dès que je lâche le micro à la fin, tout redevient normal. Gloire à Dieu. Peu importe la taille d'une église, on la mesurera par la taille de ses réunions de prière. Vous voulez voir la dimension d'une église? Regardez les réunions de prière. Vous voulez connaître la dimension spirituelle à laquelle opère une église? Regardez les réunions de prière. Ne regardez pas le dimanche. Le dimanche, c'est la foule. Le dimanche, tout le monde vient. Le dimanche, vous avez les membres de l'église, vous avez les gens qui viennent de temps en temps, vous avez les visiteurs et vous avez les non-croyants. Tout le monde vient. Mais quand on dit réunion de prière cette semaine, vous vous retrouvez à trois. Où est passé tout le monde? On n'a pas le temps, c'est trop loin, etc. Bla, 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 etc. Dieu dit, les excuses, il y en a. On a tous de bonnes excuses. On ne remet pas en question les excuses. Dieu n'a aucun problème avec nos excuses. Ce qui pose problème à Dieu, c'est quand nos excuses passent avant lui. Rappelez-vous de la parabole des noces, du roi qui envoie son serviteur pour inviter ses invités. Il y en a un qui dit, je vais marier ma fille. C'est une bonne excuse, non, de marier sa fille. Il y en a qui dit, je dois aller labourer mon champ. Pourquoi? Parce que si Dieu dit que mon but à moi est prioritaire, alors on doit se mobiliser. On doit se mobiliser. Dis avec moi la prière. Pourquoi les chrétiens ne prient pas? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi les chrétiens ne prient pas? Pourquoi les chrétiens ne viennent pas aux réunions de prière quand il y a des réunions de prière à l'église? Pourquoi les chrétiens ne prient pas à la maison quand ils se lèvent le matin? Pourquoi les chrétiens ne prient pas? Eh bien, la réponse, elle est simple. Parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Parce qu'ils prient, ils prient, ils prient, ils ne voient rien venir en retour, ils arrêtent. Parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. C'est pour ça qu'ils ne prient pas. La Bible nous dit dans Matthieu 6, au verset 5. Regardez ce que Jésus-Christ nous dit. C'est Jésus qui parle ici. Jésus-Christ dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Quand vous priez, on va s'arrêter là. Quand vous priez, dis avec moi, quand vous priez. Jésus-Christ dit, quand vous priez, parce que pour lui, vous êtes censé prier. Vous êtes censé prier. On ne dit pas quand vous priez à des gens qui ne prient pas. Quand vous priez. Il ne dit pas si vous priez. Parce que si on met une condition, c'est selon mon bon vouloir. Il dit non, quand? Parce que tout simplement, tu es censé prier tous les jours. Quand tu pries. Voici ce que tu dois dire, voici ce que tu dois faire, etc. Quand implique que cela est naturel pour nous de prier, que je m'attends à ce que vous priez et que vous êtes censé normalement prier sans problème. La prière ne doit pas être un problème pour un enfant de Dieu. Parce que la prière est une norme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des standards, il y a des symboles, il y a des fêtes, comme la Pâque. Etc. Il y a ce qu'on appelle la culture du royaume. Vous vous rappelez, non? L'enseignement sur la culture. La culture du royaume des cieux. Et dans notre culture à nous, l'Église, les enfants de Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle la prière. Dis avec moi la prière. C'est une culture chez nous. C'est quelque chose de normal de prier. Tout comme c'est normal de manger, c'est normal de prier. Tout comme c'est normal pour toi de boire de l'eau, c'est normal de prier et de donner de l'eau et de l'oxygène à ton esprit. Quand tu ne pries pas, c'est comme si tu te privais d'eau. Et tu finis par te déshydrater. La prière. Dis avec moi la prière. Voici trois questions que je me suis posées au sujet de la prière. La première, c'est si Dieu est Dieu, si Dieu est souverain et tout-puissant, Créateur des cieux de la terre. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Hein? Il peut tout. Il est tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout. On claque des doigts et puis il fait, c'est tout. Alors, pourquoi on doit prier? Rien ne lui est impossible. La deuxième question, c'est si nous ne pouvons pas influencer Dieu, car il est souverain, alors pourquoi prier? La souveraineté veut dire qu'il n'est pas influençable par nos prières. S'il est souverain, cela veut dire qu'il peut faire le contraire de ce que je lui demande. Il est souverain. La troisième question, c'est si Dieu ne peut pas être affecté par ce que nous disons, par ce que nous faisons. Alors, pourquoi prier? Pourquoi prier? Eh bien, la réponse, elle est très simple. La première réponse, c'est que Dieu a rendu sa parole aussi souveraine que lui-même. Dis avec moi sa parole. Dieu a rendu sa parole souveraine. Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que Dieu est limité par sa parole. Et troisième chose, c'est que Dieu ne violera jamais sa parole. Amen. Et ça, c'est très important. Une chose très importante par rapport à ce que je dis là, c'est que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu prononce devient une loi. La raison pour laquelle Dieu ne parle pas beaucoup aux gens, c'est parce que quand Dieu parle, tout ce qu'il dit, il est obligé de l'accomplir. C'est pour ça que Dieu ne peut pas céder à toutes tes demandes. Parce que s'il dit oui, il est obligé de faire. Parce qu'il engage à chaque fois sa parole. Dieu demeure souverain tant qu'il ne parle pas. Tant qu'il ne parle pas, il demeure souverain. Dès qu'il ouvre la bouche, il n'est plus souverain parce que sa parole prend le dessus tout de suite. C'est Dieu qui a choisi de faire les choses comme ça. Il n'est plus souverain. Et c'est pour cela que Dieu fait très attention à sa parole. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de nous ajuster par rapport à sa parole si on veut être heureux. Parce qu'il dit, je ne ferai jamais au-delà de ma parole. Les hommes se fourvoient. Les hommes croient qu'ils sont au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Psaumes que Dieu se rit des nations. Il dit, mais les nations n'ont pas compris. Je ne violerai pas ma parole. Si Dieu dit, quand vous priez, j'ai arrêté une loi, j'ai déclaré ouvertement, moi le Père, ancien des jours, que désormais, personne ne rentre au ciel et aucune requête n'arrive sur mon bureau au ciel si elle ne vient pas avec le tampon Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien qui est validé. Personne ne rentre au ciel. Avant, le ciel était ouvert. Hein. Même Satan se baladait au ciel. Vous n'avez pas vu dans le premier chapitre du livre de Job? La Bible dit, Satan se promenait sur la terre et quand il vint devant Dieu, Dieu lui demanda, d'où viens-tu? Oh, de ci et de là, je me promenais. Il se promenait et il entrait et sortait au ciel comme il voulait. Maintenant, le ciel est fermé. Personne ne rentre au ciel sans qu'il ait donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand je dis ça à quelqu'un, un jour, il me dit, tu veux me dire quoi? Donc, les 1 milliard de musulmans qui sont sur la terre vont tous aller en enfer. Je dis, oui. Mais tu es fou avec ton évangile. J'ai dit oui, ils vont aller en enfer s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu peut sacrifier tous les êtres humains là? J'ai dit, Dieu a dit que même s'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la terre, s'il y a juste 100 000 qui sont en Jésus-Christ, les restes là, tout le monde va en enfer. Voici la gravité de l'évangile. C'est grave, hein? C'est comme ça qu'il y a des gens comme Renard Bonquet qui se sont levés et qui prêchent avec une passion parce qu'il dit, hé, faut vous réveiller là. Dieu a dit, personne ne va au ciel, au paradis, s'il n'est pas en Christ. C'est pour cela que le jour où tu comprends ça, tu dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, toi. Alors, laisse-moi écrire tes histoires-là. Donne ta vie à Jésus, oh, je te dis déjà. Au moins, quand tu seras là-bas, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Une fois, j'étais au restaurant avec quelqu'un et puis le serveur vient nous servir sur la table et puis le monsieur avec qui j'étais dit, il regarde le serveur et fait, monsieur, bonjour, vous connaissez Jésus? Le serveur fait, non. Il faut donner votre vie à Jésus, hein, c'est très important. Hein? Le serveur fait, oui, mais encore, vous avez besoin d'autre chose? Non, monsieur, on passe à ma commande après. Je tenais à vous dire qu'il faut donner votre vie à Jésus. Le serveur était là, il nous regardait et tout. Il disait, mais lui, se prend pour qui? On passait encore un illuminé de ces évangélistes-là. Il dit, non, mon frère. Et après, il dit, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas dit. Tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus dans ta vie. Parce que quand tu seras en enfer, avec le feu devant toi, tu pourras dire qu'un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus et j'ai refusé. Là, c'est Dieu qui te parle. Il était là, il regardait tout. Oui, lui, c'était un radical pour Christ. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu ne violera jamais sa parole. Dieu ne violera jamais sa parole. Et parce que la prière est limitée par la parole de Dieu, notre prière doit s'ajuster à la parole de Dieu. On va s'intéresser de près à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était quelqu'un de très spectaculaire. Et vous avez vu que le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Le secret de la réussite de Jésus ». Jésus avait un secret. Jésus était quelqu'un de spectaculaire, quelqu'un d'extraordinaire. Et quand on lit les évangiles, on est simplement impressionné par ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ guérissait les malades. Il marchait sur l'eau, il parlait aux arbres, il faisait marcher les paralytiques, il ressuscitait les morts. Si aujourd'hui Jésus-Christ entre ici, s'il entre ici, la première chose que tu lui demanderais certainement, c'est de dire, Seigneur, amène-moi à faire ce que tu fais. J'ai envie d'être comme toi. Comme tu guéris les malades, je veux guérir les malades. Comme tu parles au Père, là, je veux parler au Père comme ça. Tu parles à l'arbre, puis l'arbre sèche-moi si je veux faire ça. Je veux être comme toi. Je veux être un gars extraordinaire comme toi. Je veux être comme toi. Enseigne-moi comment ouvrir les yeux des aveugles. Enseigne-moi à marcher sur l'eau. Ce serait génial d'apprendre à marcher sur l'eau. Hein? Si Jésus te montrait comment marcher sur l'eau, ce serait génial. Mais pourtant, la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, c'est pas ça. Regardez ce que les disciples ont demandé à Jésus. S'il y a bien une chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner, c'est ça. Regardez bien ce verset, il est très important. Quand tu lis la Bible, hein, parenthèse, quand tu lis la Bible, lis-la doucement. Prends le temps de mesurer chaque mot. Parce que dans chaque mot, Dieu dit quelque chose. Et il y a une révélation derrière. Luc chapitre 11 au verset 1. Un jour, Jésus priait. Dis avec moi, Jésus priait. Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Quand il eut fini, vous savez pourquoi le Saint-Esprit écrit ici « quand il eut fini » Parce que le Saint-Esprit est en train de nous dire que les gars étaient là en train de regarder Jésus prier. Et ils ont attendu qu'il finisse pour lui poser la question. Il faut rentrer dans le contexte. Tu sais, quand tu vas faire des études de théologie, la première chose qu'on t'enseigne, c'est à rentrer dans le contexte du texte. Et à comprendre ce qui se passe dans le texte que tu es en train de lire. Quand il est écrit, quand il eut fini, ça veut dire que les gars étaient là, quelque part cachés, et puis ils observaient comment Jésus priait. Tu as vu comment il prie ce gars-là? Tu sais comment il prie? C'est particulier. Hein? Et la Bible nous dit, quand il eut fini de prier, le Saint-Esprit aussi nous fait remarquer ici une deuxième chose, c'est que Jésus-Christ priait tout seul. Jamais tu vois dans la Bible Jésus prier avec les gens. Nous, on aime les réunions de prière. On aime venir là où il y a le monde. Parce que quand il y a du monde, on est là. On ne nous entend pas. Élevons la voix, les amis, élevons la voix. Personne ne veut élever la voix. Mais la prière, c'est d'abord un moment personnel et intime avec Dieu. C'est d'abord ça, la prière. Donc, les disciples, quand ils ont observé Jésus... Mais attention, je dis bien, il n'y a pas de problème à prier en groupe. Hein. Il n'y a pas de problème à prier ensemble à l'église. Il faut venir à une réunion de prière. Sinon, il y en a qui vont me sortir. Tu as dit qu'on prie seul. Non, alors on reste chez nous à prier. Non. Il faut venir aux réunions de prière. Donc, il n'y a rien de mauvais à prier en groupe. Mais ta passion doit d'abord être la prière personnelle dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus priait seul dans un lieu et les disciples l'observaient. Et quand il eut fini, les disciples ont fait une chose. Les disciples se sont approchés. Ils sont venus, Jésus sortait. Ce sont moins de prière. Et les disciples viennent, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier comme ça. Ça veut dire que les gars, quand ils ont observé son attitude, ils ont vu qu'il avait une attitude quand il priait. Pourquoi les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier comme lui et pas à faire des miracles? Pourquoi les disciples ne se sont pas focalisés sur les miracles, mais sur la prière? Parce que tout simplement, les disciples avaient remarqué que chaque jour que Dieu faisait, ce gars-là faisait des choses extraordinaires. Les gens disaient, mais ça lui vient d'où une telle puissance? D'où lui vient une telle puissance? Et ils ont dit, ok, La meilleure manière d'apprendre, c'est de prendre du recul et d'observer le gars. On va apprendre en l'observant. Et quand ils ont commencé à observer Jésus, ils ont dit, les moments de Jésus où il faut l'observer, c'est quand il est seul. Et quand Jésus est seul, il est en train de prier. Parce que Jésus n'était jamais seul. Jésus était toujours avec ses disciples ou toujours avec la foule. Mais Jésus-Christ avait toujours un temps où il était seul. Et les disciples se sont rendus compte que c'est ce temps-là qui était lié à ces miracles. Les miracles que Jésus faisait venaient de ce temps-là. Parce que c'est là-bas qu'il entendait la voix du Père. C'est là-bas qu'il listait ses tâches de la journée. Alors aujourd'hui, on va guérir un aveugle. Aujourd'hui, on va faire marcher un paralytique. Aujourd'hui, l'ange lui dit, aujourd'hui, il y aura un lépreux qui viendra te voir. D'accord. Il viendra quand? À 14h. D'accord. À 14h, j'ai rendez-vous avec un lépreux et puis il faudra le guérir de la lèpre. Il recevait tout de la journée. Rien ne le surprenait. Et donc, les disciples se sont dit, OK, on va mettre le réveil beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'eux, ils aimaient dormir. Vous vous rappelez pas dans Gethsémané, pendant que Jésus priait, eux, ils dormaient. Eux, ils aimaient dormir. Toi, comme tu aimes dormir, là, eux, ils te réveillent pendant qu'on prie. À 10h, tu es encore au lit ou tu dors. Pendant ce temps, la journée est déjà finie. Donc, ils ont dit, on va se réveiller plus tôt. Et voici ce qui s'est passé. Regardez le passage. Marc 1, au verset 35. C'est un passage très important. Parce que c'est là le secret de la réussite de Jésus. Marc 1, au verset 35. « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. » Donc, les disciples sont venus et ils ont regardé Jésus. Très tôt le matin, ils ont vu, ah, il se lève très tôt. Quand il fait encore nuit noire et il va dans un endroit isolé, tout seul. Et il prie. Et vous savez, quand vous rentrez dans le contexte, quand la Bible, pourquoi le Saint-Esprit précise ici nuit noire? Pourquoi le Saint-Esprit précise ici nuit noire? Parce que nuit noire, ça veut dire qu'il est encore peut-être même 4h ou 3h du matin. Et c'est là qu'il priait. Vous n'avez pas remarqué que le meilleur moment de prière, c'est là la nuit. C'est dans la nuit. Pourquoi les meilleurs moments de prière, c'est la nuit? Parce que c'est là où ton esprit est le plus disposé. C'est sweet, c'est calme. Il n'y a pas de bruit dans la rue. Tout le monde dort. C'est silencieux dans la maison. Tu entends juste le bruit de la clim. Et là, tu pries. Tu évites même de crier pour réveiller les autres. Et même si ton voisin est de l'autre côté, si tu pries la manière dont il y a le silence, là, il risque de t'entendre tellement c'est silencieux. Et c'est là que Jésus-Christ disait, c'est là qu'il faut aller chercher le Père. Parce que le Père est là, dans le secret, quand il est calme la nuit. Je vais vous apprendre une chose. Dieu est quelqu'un qui vit la nuit. Dieu vit la nuit. Pendant qu'on dort, c'est là où Dieu se balade. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui sont aussi dans les choses bizarres, c'est la nuit aussi qu'ils font leurs choses. Parce que la nuit, c'est là que les choses se passent. Dès que minuit sonne, là, c'est là. Regardez l'histoire de Paul et Silas dans la prison. On les mit en prison. La Bible dit qu'ils se mirent à chanter. Et la Bible précise dans le livre des Actes que dès qu'il fut minuit, tout à coup, la terre trembla. Minuit, c'était l'heure de sortie de Dieu. Dieu sort à minuit. Pourquoi Dieu n'a pas fait trembler la terre à 22h quand les gars chantaient? C'est pas parce que les gars n'étaient pas persévérants, parce que Dieu a une heure. Et minuit, là, c'est une heure stratégique dans le monde spirituel. Les démons sortent à minuit. Les sorciers sortent à minuit. Dieu sort à minuit. Dieu est là aussi la journée, rassure-toi. Mais cette histoire de nuit-là, il ne faut pas blaguer. Si tu veux monter en puissance dans la prière, prie la nuit.
Amen.
Prie la nuit. Si tu trouves que tu es souvent fatigué la nuit, dors plus tôt. Moi, quand je prépare le message chez nous à la maison, Nous, on se couche tôt le samedi. Si je reste éveillé tard le samedi, en général, j'ai du mal à me lever la nuit, le dimanche. Donc, je vais plutôt tirer vers 5h, 6h du matin. Mais quand j'ai dormi tôt, là, 4h, tu es debout. Ma femme aussi, la nuit aussi. Parfois, quand je dors la nuit, là, elle est là, j'entends souvent, wow, elle est en train de prier là-bas la nuit. La nuit. Mais si tu viens chez nous, si un jour tu viens chez nous et que tu es un dormeur, toi, tu vas te réveiller toujours à 6h, 7h. Et puis, tu vas croire que chez nous, ah, mais le pasteur ici, il ne prie pas. C'est un pasteur quand même. Il ne prie pas, ce gars-là. Il se lève le matin, il ne prie jamais. Parce que moi, le matin, quand tu me vois me lever à 7h, 6h, 8h, je ne prie pas. Parce que nous, on fait les choses la nuit. Tu vois? Ça se passe la nuit. Et parfois, on ne fait pas beaucoup de bruit. Parfois, la nuit, quand on se réveille, ce n'est pas absolument on se met debout. Voilà. Non, le corps est fatigué. Parfois, tu te réveilles, tu es réveillé, tu es sur le lit. Et puis, sur le lit, tu es éveillé et tu pries. Je suis couché sur le lit. Parfois, ma femme et ma fille dorment la nuit. Et moi, quand je suis préoccupé par un certain nombre de choses, je suis dans le lit. Et je suis là dans le lit, je me dose un peu pour ne pas être trop couché. Et puis, je suis là et je prie. Kataya brondoste, kataya barandaste. Seigneur, merci. Kataya. Et je prie comme ça, je prie. Je suis en train de prier la nuit. Dans le calme que le bruit de la clim. Je peux rester comme ça une demi-heure, 45 minutes, jusqu'à ce que je vais peut-être revenir dans le sommeil. Mais je prie. Gloire à Dieu. Si tu veux monter en puissance dans la prière, prie la nuit. Et Jésus était spectaculaire. Parce que tout simplement, les disciples avaient compris que les miracles de Jésus étaient liés à ces moments de prière. Très tôt le matin, quand il faisait encore nuit noire, et dans un endroit isolé. Et pourquoi le Saint-Esprit précise ici nuit noire? Parce qu'en Israël, à leur époque, quand il faisait nuit noire, là, c'était une histoire de 3 heures du matin. Les disciples se réveillaient vers 6 heures et 7 heures du matin. Et quand, au moment où eux, ils se réveillaient, c'est là où ils voyaient Jésus-Christ sortir de son moment de prière. Mais si Jésus-Christ se réveillait pour prier quand il faisait nuit noire à 3 heures du matin, et que c'est à 6 heures, 7 heures qu'il sortait de son moment de prière, il allait passer au moins 3 ou 4 heures dans la prière, Jésus. 4 heures de prière, le gars sortait, blindé. Et dès qu'il descendait de sa montagne, les disciples lui disent, Seigneur, on va où? On va en ville, dans les bourgades. Et dès qu'il arrivait, oh Seigneur, fais que je sois pur. Sois pur. Oh Seigneur, je veux retrouver la vue. Retrouve la vue. Qui te soit fait selon ta foi. Parce que le gars sortait rempli. Je t'assure. Fais le test, dispose-toi, organise-toi, lève-toi un jour à 3 heures ou à 2 heures, prie jusqu'à 6 heures. Tu vas voir comment tu vas être blindé. Tu vas voir que tes journées vont être différentes parce que tu vas te sentir tout d'un coup très spirituel. Tu vas te sentir très spirituel parce que tu sors de 4 heures de prière. Vous n'avez pas remarqué les gens qui sortent de prière, ils ont toujours les petits yeux. Ce qui les rend encore plus spirituels. Il y en a, ils ont compris l'astuce, ils ne prient jamais, mais ils font l'astuce des petits yeux pour montrer aux gens qu'ils font comme s'ils priaient. Quand tu vois quelqu'un, la journée à 8 heures, même si on doit être enthousiaste, par exemple moi, quand je suis enthousiaste le matin, je suis enthousiaste, mais en général, je n'aime pas beaucoup parler et je n'aime pas trop crier. J'aime le calme. Parce que spirituellement, tu veux toujours rester éveillé. Donc, quand il commence à avoir beaucoup de bruit, les gens gesticulent partout. En général, quand tu es quelqu'un de spirituel, tu veux toujours t'éloigner de tout ça. Parce que tu veux être dans le calme. Dis avec moi la prière. Les gars avaient découvert le secret de Jésus. Et ils avaient compris que Jésus-Christ passait en moyenne 4 heures par jour, voire 3 heures en train de prier. Et quand je te parle de 4 heures de prière, là, ce n'est pas 4 heures de prière. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare. Il faut que je reprenne le sport un peu. Hein. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Seigneur, quand tu cries là, ça te pompe de l'énergie. Donc, tenir 4 heures comme ça là, c'est fatigant. Tu ne peux pas. Le corps ne suit pas. La prière, ce n'est pas crier. La prière, c'est disposer ton esprit et le connecter à Dieu. Tu peux très bien être dans des moments calmes, posés, assis, en train de parler doucement. Regarde Anne dans la Bible. Anne, devant le temple, elle était tout à genoux. Et la Bible dit que quand le souverain sacrificateur Élie vint, il la regarda prier. Et il dit, la Bible dit qu'il vit ses lèvres juste bouger. Et puis il dit, tu es trop rempli de vin, toi, tu es saoul encore. Parce que lui pensait qu'elle était en train de marmonner des trucs bizarres. Elle était en train de prier. Mais regardez la puissance de la prière qu'il y avait derrière. Elle ne bougeait pas, elle ne faisait pas beaucoup de bruit. Elle priait. Elle murmurait des petits mots, mais c'était des paroles. Oh Dieu, entends ma voix. Entends ma voix. Mais en haut, là-bas, là, quand le Saint-Esprit prend ça, là, toi, c'est doucement. Oh Dieu, entends ma voix. Le Saint-Esprit, quand il prend la parole, là, tu sais ce qu'il fait? La Bible dit que le Saint-Esprit pousse vers Dieu des soupirs inexprimables. Je vais te dire, c'est quoi les soupirs inexprimables? Alors, tu prends deux cymbales, les cymbales, là, et puis tu tapes ça comme ça, là. C'est inexprimable. Tu peux pas refaire le même bruit. Et bien, le Saint-Esprit prend tes prières, là, et puis il va devant le trône de Dieu. Et puis, il est là devant le trône. Et puis Dieu dit au bout d'un moment, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais l'exaucer, tiens. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Jusqu'à ce que Dieu dise, ok. C'est pour ça que Dieu dit, insiste, 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 parce que moi, ton avocat, je vais devant le trône et je mets ça devant le trône. Tu n'as jamais vu ça, des gars, des patrons d'entreprise ou d'administration qui ne veulent pas te recevoir. Et tu, là, tu fais le pied de grue devant son bureau. Quand il rentre, il te voit. Quand il sort, il te voit. Quand il rentre, il te voit. Quand il sort, il te voit. Au bout d'un moment, le gars l'a mis nerf. Bon, monsieur, vous voulez quoi? C'est pour ça que la parabole de Jésus, la parabole du juge inique. Jésus-Christ dit, quand vous priez, même s'il ne veut pas vous donner, il va vous donner. Le juge, il est inique. Dieu dit, il est inique. Donc, il ne veut pas te donner. Mais à cause de l'insistance de ta prière, il va finir par céder. Parce qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de te voir. C'est pour ça que l'ange Gabriel, un jour, va voir le chef du gouvernement, Jésus-Christ. Et il lui dit, est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes à Akanda là-bas qui ont créé une église qui s'appelle la maison du baptiseur? Et alors, il y a des églises qui se créent tous les jours au Gabon. Donc, on va voir jusqu'où ils peuvent aller. Gabriel revient le lendemain. Tu sais que les gars là, ils ont compris l'adoration, ils prient. Hein? Et alors, tout le monde a compris l'adoration. Gabriel revient. Gabriel, qu'est-ce qu'il y a? Mais Seigneur, les gens là, ils insistent. Hein? Parce que la manière dont ils prient là, ils sont là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jésus-Christ dit tous les jours. Seigneur, tous les jours que Dieu fait. Regarde mon bureau. J'en ai marre de leur dossier. On m'amène leur dossier tous les jours. Au bout d'un moment, Seigneur, exauce-les. Je vais vous raconter l'histoire de Salomon. Vous connaissez le gars qu'on appelle Salomon. Salomon a grandi auprès d'un papa très dangereux qu'on appelait David, qui avait lui aussi compris l'adoration dans la prière. Salomon était dangereux. Salomon va dépecer 20 000 bœufs. Attends. Tu connais un bœuf? Tu sais ce qu'est un bœuf? Le bœuf, c'est gros comme ça, là. Il te prend 20 000. T'imagines le nombre de jours qu'ils ont mis à dépecer ça? Et la Bible dit que même notre cour, là, ne suffirait pas pour contenir tous ces bœufs. Donc, ça devait même peut-être même aller jusqu'à Ocala. On a aligné tout ça. Et puis, on a mis de l'essence dessus, de l'inflammable. Et puis, Salomon a dit, allumez. Quand s'allumait là, waouh! Imagine un peu l'embrasement de la chose. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible dit que l'odeur là est montée devant le trône. Quand l'odeur là est montée, les séraphins voient le dossier arriver. Tu sais, il y a des dossiers de gens. Quand ça arrive sur un bureau, les gens font juste ça là, je ne peux pas traiter ça. C'est trop lourd comme dossier. Séraphin emmène ça chez Chérubin. Chérubin prend le dossier, il dit, ah, 20 000, ça là, c'est trop compliqué. Il va chez Michael, secrétaire général, ministre de la Défense. Ministre de la Défense, Michael regarde le dossier, il fait, 20 000, aucun homme n'a jamais fait ça. C'est qui? Salomon. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de David. David, c'est ton enfant. Michael dit, non là, je ne peux pas traiter ça. 20 000, emmène ça chez Gabriel. On emmène le dossier chez Gabriel. Gabriel voit le dossier. 20 000? Ça, c'est quelle prière, ça? Gabriel dit, ça, c'est papa Dieu qui peut tester ça. La Bible dit que la nuit même, Dieu vint. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des stars, quand elles arrivent au Gabon, c'est le président de la République lui-même qui se déplace. Parce que tout simplement, Dieu se déplace pour les poids lourds. Quand ta prière est lourde, avec insistance et passion, Dieu lui-même vient. Et quand tu paies le prix, le sacrifice qu'il faut, Dieu va t'exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça que Jésus avait compris. Jésus-Christ savait que son ministère était trop stratégique et trop important. Et c'est pour cela qu'il priait comme ça tous les jours. Et les disciples avaient compris ça. Et c'est la conclusion qu'ils avaient faite. Un jour, les disciples, Jésus-Christ finissait de prier sur la montagne. Et Jésus-Christ va envoyer ses disciples en ville. Et il dit, je vous rejoindrai. C'est dans le livre de Marc, au chapitre 9, au verset 14. Et là, les disciples vont aller quelque part. Et là, ils vont voir un cas. Ils vont voir un enfant épileptique. L'épilepsie, c'est un cas compliqué, hein? Le père vient voir l'enfant. Eux, ils se sont réveillés à 6h, 7h. Ils n'ont pas prié. Le père dit, guérissez mon enfant. Marc 9, au verset 14. Jésus-Christ descend de la montagne et il voit tout un désordre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tes disciples ont essayé de guérir un malade là, mais ils n'ont pas réussi. Regardez la réaction de Jésus, verset 14. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Dis avec moi, jusqu'à quand? Pourquoi Jésus-Christ dit jusqu'à quand? Parce qu'il exprimait un ras-le-bol. Vous êtes avec moi tous les jours. Vous priez à l'église tous les jours. Vous venez à l'église tous les dimanches, mais quand il faut prier, vous êtes nuls. Jusqu'à quand vous apprendrez à prier? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Après, il fait, amenez-les-moi. Et dès qu'on emmena l'enfant, regardez ce qu'il dit. Démon, sors! Le démon est parti. Et là, il dit plus loin aux disciples, regardez ce qu'il leur dit. Gens sans foi, version français courant, une autre version dit gens de peu de foi, que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps? Parce que lui, il voulait rentrer au ciel, Jésus, il voulait partir. Mais combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Et il chassa le démon. Amen. Et là, regardez ce qui est écrit. Au verset 28, Jésus a réglé le problème. Tout le monde est en train de se disperser. La Bible dit, au verset 28, quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent. En fait, ils vinrent comme ça là. Ils ont vu Jésus, ils ont vu le cas, ils ont dit, ah, tu as vu comment le gars a réglé ça? Vraiment, 2, 4, 6. Hein? Eux, tu sais comment ils ont voulu régler le cas? Je vais te dire comment ils ont voulu régler le cas. On emmène le démon. Tu vois Jean déjà qui dit à Pierre, non gars, c'est moi qui chasse le démon là. Jacques dit, non, laisse-moi, c'est moi qui veux le chasser, c'est moi, c'est nous les durs là, etc. C'est moi, je suis Jean, fils du tonnerre. Moi, je suis Simon, l'enfant sur le roc. Non, on va le chasser. Et comme nous-mêmes, on a l'habitude de chasser les démons, au nom de Jésus, sors! Il sort pas. Au nom de Jésus, sors! Et ils ont fait ça pendant des heures. Et il vint voir Jésus, parce qu'ils étaient fatigués, ils n'avaient pas réussi. Et là, ils viennent voir Jésus et lui dire, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus leur répondit, c'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Jésus-Christ était en train de leur dire que vous ne vous étiez pas préparés dans la prière. Vous n'êtes pas préparés. On vous emmène un démon et vous ne priez pas. Même moi, quand on est venu me dire que Lazare était mort, je suis parti m'enfermer pendant 4 jours. Toi, tu veux chasser un démon épileptique, tu n'as même pas prié. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de nous révéler ici? Les disciples avaient compris une chose. Voici, c'était ça le secret de Jésus. Comment Jésus-Christ faisait pour faire des miracles en quelques instants, pour avoir autant de percées? Il passait 4 heures dans la prière, et très peu de temps à régler le problème des gens. Il passait 4 heures à se préparer et très peu de temps dans l'action. La clé est là. plus tu passes du temps à te préparer et plus ce sera simple de régler les problèmes. La qualité de ta préparation déterminera ta performance. Plus tu te prépares, plus ce sera facile et ce sera simple. Pour pouvoir courir 9 secondes de 100 mètres aux Jeux Olympiques, les sportifs se préparent 4 ans. 9 secondes, le rendez-vous de leur vie. Et ils se préparent 4 ans. Toi, tu te lèves le matin pour faire une journée de 24 heures et tu ne pries pas. Et après, tu t'étonnes que tu as plein de problèmes à régler. Tu ne pries pas. Quand le malheur arrive, tu sombres dans la tristesse parce que tu ne t'es pas préparé. Tu marches dans la rue et boum, on t'agresse. On t'a volé ton sac. Parce que spirituellement, tu n'as pas balisé le terrain. Tu ne te prépares pas. Tu te lèves et boum, accident de voiture. Tu ne sais pas d'où ça vient parce que tu ne t'es pas préparé. Tu es sur le point d'aller exposer un entretien, dans une entreprise, un rendez-vous très important. Tu dois donner une formation ou bien tu dois annoncer la parole quelque part. J'en sais rien. Tu dois faire quelque chose de très important pour ta vie et tu consacres qu'une minute dans la prière. Oh Seigneur, je te recommande cette journée. Merci pour l'entretien que je vais avoir. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, je suis parti. L'entretien va durer 2 heures. Et ensuite, quand tu sors de là, oh Jésus, vraiment, je m'étais vraiment préparé pour l'entretien là, etc. Tu n'as pas préparé ça spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et Jésus-Christ se préparait dans la prière. La prière, la première caractéristique de la prière, c'est la préparation. Elle t'aide à te préparer spirituellement, à préparer tes journées et à préparer ton avenir. Parce que dans la prière, Dieu te révèle beaucoup de choses. Dieu te révèle des plans. Dieu te révèle des stratégies. Dieu te révèle des choses pour ton travail. À plus forte raison, si tu travailles dans des endroits compliqués, hostiles, dans une administration, etc., où les gens en veulent à ta vie, tu dois te préparer. Parce que spirituellement, tu vas pouvoir discerner un certain nombre de choses. Parce que tu seras éveillé. Mais si tu ne pries pas, tu dois aller passer le bac. Tu ne pries pas. Et après, tu t'étonnes que tu échoues à ton bac. Tu as jeûné combien de jours pour pouvoir avoir ton bac? Combien de temps tu as prié pour avoir ton bac? Tu ne priais jamais. Le bac, c'est un événement important pour la vie. Mais tu ne pries pas. Un rendez-vous aussi solennel pour ta vie, tu ne pries pas. Le jour de ton mariage, un jour aussi important, vous ne priez pas. Vous êtes que dans les activités. Organiser la salle, courir après les parents. Oh maman, tu me fatigues, les disputes au téléphone. Et le jour du mariage, tout le monde est avec la robe blanche. Et puis le jour du mariage, boum, il y a un truc qui tombe, accident de voiture. Oh, on n'a pas prié. Amen. On va finir avec ça. Donc les disciples avaient compris qu'il fallait se préparer avec la prière. D'où vient la prière? La prière est quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi et on va terminer avec ça, on continuera la semaine prochaine. La prière, d'où est-ce qu'elle vient? La prière est née. Tout à l'heure, je vous ai demandé, si Dieu est souverain, pourquoi il faut prier? Eh bien, il faut prier parce que Dieu a dit ces paroles-là, ici. La prière est née ici. Genèse 1, au verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La prière est née là, qu'il domine. Qu'il c'est qui? Qu'il c'est l'homme. L'homme. L'homme c'est qui? L'homme est cette créature spirituelle que Dieu a créée à son image et à qui il a dit, c'est toi qui diriges la terre. Et parce que tu domines sur la terre, je n'interviens pas dans les affaires de la terre. Si je n'interviens sur les affaires de la terre sans ton autorisation, alors je viole ma parole. Qu'il domine. Amen. Ah, je ne sais pas comment je vais dire ça. Et après, Dieu fait une chose. Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il lui souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel lui forma quoi? L'Éternel lui forma un corps. Dis avec moi un corps. Un corps. Donc l'homme est cette créature souveraine sur la terre qui a l'autorité légale d'agir sur la terre et qui habite dans un corps. Nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. Et Dieu a déclaré une chose, c'est que toute personne, c'est un principe qui est biblique, qui dit que toute personne, tout être spirituel qui veut opérer sur la terre doit avoir un corps. C'est une loi. Parce que tout simplement sur terre, c'est l'homme qui domine. Même moi, Dieu, je ne peux pas venir sur terre sans l'autorisation de l'homme. Principe, pour que Dieu puisse intervenir dans les affaires de la terre, il lui faut ton autorisation. Il lui faut ta licence. C'est pour cela qu'un jour, quelqu'un a demandé, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans ma vie pour résoudre ce problème-là? Oh, je ne peux plus. J'ai dit, parce que tout simplement, tu ne lui as pas demandé. Mais je prie tous les jours. Mais tu dois continuer. Dieu viendra quand il considérera que la demande est suffisamment bonne et honorable pour qu'il vienne. C'est un principe. Ce principe-là, je vous assure, c'est quelque chose de très important à comprendre. Les gens dans le spiritisme ont compris ça. L'histoire du corps, là, on ne blague pas avec. C'est pour ça que Dieu nous a donné un corps. Et c'est pour ça que Satan en voudra toujours à ton corps. Parce que Satan sait que quand tu n'as plus de corps, tu deviens illégal sur la terre. Vous me suivez? Tout esprit qui n'a pas de corps ne peut pas agir sur la terre et il est illégal sur la terre. Tout esprit, même Dieu lui-même. Vous voulez que je vous montre un exemple dans la Bible qui nous en parle? Luc 8 au verset 27. Regardez cette histoire, je la lis rapidement. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie. » Sache que les démons supplient aussi. « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus. Tu sais que les démons prient aussi. Ils prient aussi. Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur donner... ordonné d'aller dans l'abîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là, dis avec moi, il y avait là, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, tranquille. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et regardez ce qui se passe après, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. La question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi les pourceaux se sont précipités, se sont suicidés. Parce que tout simplement, les démons étaient en train d'obéir à un principe, celui qu'on vient d'évoquer, on a besoin d'un corps pour pouvoir rester sur terre, sinon on est obligé de partir où? Dans l'abîme. Les démons restent dans l'abîme. Tous les démons qui sont sur la terre et qui agissent avec Satan sont des démons qui ont pris possession de corps. Il y a différentes classes de démons. Il y a les petits démons qui possèdent les gens, que ce soit des esprits de séduction ou que ce soit des démons de je ne sais pas de quoi. Et il y a des hautes classes de démons qui opèrent à un haut niveau dans le monde pour détruire ce monde et qui sont des agents du diable. Mais tous ont besoin d'un corps. Aucun démon ne peut rester sur terre sans corps, sinon il est destiné à aller dans l'abîme. Voici le principe ici. Tout esprit qui entre dans un corps sans l'autorisation de Dieu est un démon, c'est de la possession. Et tout être humain qui sort de son corps pour entrer dans un autre corps, c'est de la sorcellerie. Et tout être humain qui sort de son corps pour opérer dans le spirituel sans le Saint-Esprit est un sorcier. Voici le principe. C'est Dieu qui a arrêté ça comme ça. Sorcier ou vampireux, tous les noms que tu veux qu'on donne. Donc Adam, l'être humain que nous sommes des esprits qui habitions dans un corps. Et Dieu ne peut pas agir sur terre, dans nos vies, si on ne l'y autorise pas. Comment est-ce qu'on va autoriser Dieu à venir dans notre, intervenir dans notre vie? Par la prière. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais si tu ne pries pas comme ça, il ne vient pas. Il y a des événements aujourd'hui que l'on vit dans nos vies parce qu'on ne prie pas et parce qu'on n'a pas invité Dieu. Il y a des problèmes qu'on a inutilement et on souffre inutilement parce qu'on n'a pas invité Dieu dans notre vie. Il y a un pasteur une fois qui donnait une image qui disait que notre vie c'est comme une voiture. C'est qui conduit? C'est qui tient le volant? C'est Dieu ou c'est toi? Si Dieu est juste le passager dans ta voiture, tu l'emmènes où tu veux. Il ne peut rien faire. Parce que si Dieu agrippe le volant de manière brutale, il risque d'avoir un accident. Donc il préfère te laisser conduire. Sauf que lui, la différence avec toi, c'est qu'il a un siège éjectable. Au moment où l'accident arrive, lui, il est déjà éjecté, il est sorti de la voiture. Donc Dieu ne peut rien faire sur terre en tant qu'esprit. Il lui faut un corps humain. Suivez-moi. C'est là la chose maintenant. C'est là tout le plan du salut. C'est là où, quand Adam et Ève ont péché, Dieu vient voir Satan. Non, juste avant. Dieu est au ciel. Dieu surveillait ce qui se passait dans le jardin. Dieu n'est pas bête. Il surveillait. Le diable est un ange. C'est un esprit. Parce que la scène du péché s'est passée sur la terre, non? Adam et Ève avaient des corps. C'était les seuls êtres humains. Satan était un esprit. Satan, donc, ne pouvait pas entrer en contact avec Ève et Adam. Il fallait qu'il se trouve un corps. Il voulait voir qui? Il allait voir le serpent. Et à l'époque, les animaux étaient très intelligents. Le serpent et le diable, la Bible ne nous le mentionne pas, mais ils vont faire un deal. Et le serpent va prêter son corps à Satan. Parce que Satan ne pouvait pas entrer dans le corps du serpent sans l'autorisation du serpent. Et le serpent va le lui autoriser. Il va certainement lui promettre quelque chose. Le diable entre dans le serpent et le diable vient voir Ève. Et il parle avec Ève. Il la séduit. Et on connaît la suite. Et Dieu maudit le serpent. Dieu maudit Ève et Dieu maudit Adam. Mais quand Dieu, avant de les maudire, quand Dieu assista à la scène, dites-moi, quelqu'un un jour m'a demandé, pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour les empêcher? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour empêcher Adam de manger le fruit? Parce que Dieu n'avait pas de corps. Dieu était en train d'assister à la scène et il ne pouvait pas intervenir. Dieu n'a jamais permis que Adam mange le fruit parce que Dieu savait que c'était un désastre pour l'humanité. Et Dieu voulait intervenir à ce moment-là. Dès que le diable, par le serpent, a commencé à séduire Ève, Dieu voulait déjà intervenir pour stopper ça. Mais Dieu était là. Je n'ai pas de corps pour entrer. Je ne peux pas. Et le diable savait ça. C'est pour ça que Dieu a regardé la scène. Et quand la scène s'est passée, le diable savait que si Dieu intervenait, il violait sa propre parole et il devenait lui-même un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur, que quelqu'un dise amen. Amen. Mais quand Dieu maudit le serpent, regarde ce qu'il dit. Je mettrai inimitié ou encore hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En d'autres termes, je viendrai dans un corps, c'est-à-dire légalement, sur la terre, moi-même, et je t'écraserai la tête légalement. Amen. C'était la promesse, et c'est ce que Dieu a accompli. Et c'était ça le plan du salut. Depuis le début de la Bible de Genèse jusqu'à la venue de Jésus, Dieu avait qu'un seul but, venir sur terre. Venir sur terre. C'est ce qu'on voit dans toutes les alliances. Dieu se préparait sa venue. Et je vais encore aller plus loin, en te faisant comprendre que quand la Bible nous dit dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, là, ce n'est pas Jésus seulement, c'est toi et moi. Parce que nous, nous sommes aujourd'hui nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu. Et nous avons cette autorité-là de pouvoir dire au diable, écoute, maintenant on arrête le désordre, tu t'en vas. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont cette autorité-là parce que toute créature spirituelle qui n'est pas née de nouveau ne peut pas avoir un tel pouvoir entre ses mains. Et ça aussi le diable le sait. C'est pour ça que le diable fera tout pour nuire à ton corps et introduire le péché dans ta vie parce qu'il sait que le Saint-Esprit n'habite pas dans un vase qui est impur. Amen. Et Jésus-Christ rajoute encore, on connaît très bien le passage. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En d'autres termes, je vous ai donné l'autorité. Vous êtes fils de Dieu. Et par vos prières, vos paroles, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est qui peut faire ça? C'est les fils de Dieu remplis du Saint-Esprit. Romains 8, 14 nous dit, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est qui les fils de Dieu? Ce sont des esprits, nés de nouveau, à l'image de Dieu, qui habitent dans un corps en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est une promesse qui était puissante. Parce qu'un jour, Dieu devait venir sur terre et Dieu avait annoncé qu'il allait arriver sur terre pour rétablir la situation. Et c'est pour cela que le diable, sachant cela, le diable attendait la venue du Messie. C'est pour cela que pendant toute la Bible, on a vu des génocides. Au moment de Moïse, on a vu comment le diable pensait que le Messie allait arriver là, il a tué les enfants en masse. Au moment où les rois mages viennent voir Hérode, le diable fait tuer des enfants de qui ont entre 0 et 3 ans parce qu'il savait que le Messie venait de naître, etc. Parce que son objectif, c'était qu'il ne fallait pas que Dieu se trouve un corps. Si Dieu se trouvait un corps, il venait sur terre et là, il me ferait du sale. Amen. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi Dieu vient voir Marie? Dieu vient voir Marie parce que Dieu est piégé. Chaque fois que vous voyez Dieu dans la parole, en train de parler avec un homme, pour pouvoir l'utiliser, c'est parce que Dieu est piégé. Il est piégé par sa propre parole. Quand Dieu vient voir Moïse, « Hey, Moïse, viens d'abord s'il te plaît. » Il faut aller délivrer le peuple d'Israël, là, j'ai entendu les cris. Ouais, alors, Moïse, j'ai besoin de toi, là. Je ne peux pas faire ça, Seigneur. Je peux pas. Arrête de bégayer, Moïse. La Bible dit que Dieu se mit en colère. Pourquoi Dieu se mit en colère? Parce que Moïse refusa de lui donner son corps. Et Moïse dit, voici Aaron, mon frère, vas-y, prends avec lui. Dieu a dit, non, c'est toi que je veux, Moïse. C'est toi que je veux, c'est toi que j'ai choisi. Dieu avait besoin du corps du gars. Il avait besoin du corps du gars. Pourquoi Dieu vient voir Marie? Parce que pourquoi Dieu n'est pas venu au travers du corps d'un homme? Dieu vient au travers du corps d'une femme, pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi la femme est puissante dans la Bible et pourquoi Satan hait autant la femme. Satan hait autant la femme parce que Dieu a créé la femme pour lui. Quand Dieu dit à Satan, la descendance de la femme là t'écrasera la tête. Dieu est en train de dire à Satan que la femme là, que j'ai créée là, cette femme là, tu vois non, je l'ai constituée de sorte que je puisse venir sur terre. Satan dit, ouais mais attends, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc toutes les femmes sur terre sont péchées. Non, 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 Satan, tu n'as pas compris que la femme, quand elle devient enceinte, le sang de la femme ne se mélange pas avec le sang de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la poche, là où l'enfant grandit, là. C'est pour cela qu'une une mère peut avoir le sida, mais son enfant peut naître, venir au monde sans sida. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est venu au monde. Il devint enceinte par qui? L'opération du Saint-Esprit. Papa et maman, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu d'intimité avec Joseph. Et Jésus-Christ, quand il vient dans le ventre de la mère, il est protégé par le sang impur de Marie. Et c'est pour ça qu'il était pur, Jésus. Et quand il vient au monde, Jésus rend Dieu légal sur terre. C'est pour ça que Jésus est important. Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est Dieu. C'est pour cela que Jésus est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Christ. Parce que l'Esprit qui était en lui, c'était Christ. Amen. Et ce corps-là, Jésus, Yeshua, a rendu Dieu légal. Et ça, Esaïe l'a vu. C'est la vision qu'Esaïe avait eue. Ésaïe 7 au verset 14 dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, dis avec moi Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Tu veux savoir ce que veut dire Emmanuel en hébreu? Si tu vas lire la Bible en anglais, ce n'est pas écrit Emmanuel, c'est écrit Immanuel avec un I. Le mot est divisé en trois. Im, man, el. El, c'est Dieu. Man, ça veut dire homme. Im, ça veut dire dans. C'est pour ça que Emmanuel, normalement, ce n'est pas Dieu avec nous. C'est Dieu dans nous. C'est fort, hein? Quand Dieu te montre ça, il te fait comprendre. Dieu est en train de dire à Esaïe, Esaïe, un jour, je vais venir sur terre dans un corps humain. Dans le corps, c'est une vierge qui va m'attribuer ce corps-là. Et je viendrai pour rétablir le désordre que Satan a foutu. Et Esaïe avait compris ça. Et il était content. Et c'est pour cela que Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Christ. C'est pour cela que Christ ne l'a jamais appelée maman. Christ l'a toujours appelée femme. C'est pour cela que dans une religion, dans des religions, on prie « Oh Marie, mère de Dieu ». Ce n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus, pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de maman. Christ, c'est Dieu. Et Jésus, c'est le corps. Et Christ, c'est celui qui habite à l'intérieur du corps. En d'autres termes, la prière, c'est Dieu qui intervient sur terre au travers d'un corps. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Satan avait compris tout ça. D'accord? Et Satan dit, ok, Jésus, je vais te finir. Et Satan voulait une seule chose, c'était finir Jésus. Parce qu'il savait que s'il tuait Jésus, il achevait la mission de Jésus. Mais Satan n'avait pas compris que Dieu était plus sage. Donc, quand il voit Jésus qui se livre, il pense qu'il a gagné. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? Vous commencez à comprendre, hein? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Satan voit Jésus qui se livre. Jésus, avec tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans et demi, et puis il se livre, Judas vient, il lui fait le baiser, on le capture, etc. Satan dit, Alléluia, non, youpi, hein? Je pense que j'ai attrapé le Messie, etc. Jésus-Christ dit, vas-y. Il tue Jésus. Et quand il tue Jésus, regardez ce qui se passe. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux que Jésus est parti dans le séjour des morts. Pourquoi Jésus-Christ voulait qu'on le tue? Parce que juste avant de mourir, Jésus nous avait dit ceci dans Matthieu 18 au verset... Jean 10 au verset 18. Jésus avait dit, et Satan était là, il entendait toutes les paroles. Jésus avait dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En gros, quand Satan est venu le capturer, c'est Jésus qui lui donnait sa vie. Mais Satan pensait qu'il tuait Jésus. Jésus-Christ dit, tu oublies que nous sommes des esprits. Si tu tues ce corps, l'esprit que je suis va dans le séjour des morts, et dans le séjour des morts, je peux te finir là-bas. Parce que celui qui tenait les clés du séjour des morts, c'était Satan. Et Jésus-Christ devait récupérer ça. Jésus-Christ était stratégique. Donc Jésus-Christ accepte de mourir, il va dans le séjour des morts, et quand il arrive dans le séjour des morts, Satan se tient à la porte avec les clés. Satan dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te tuer. Il dit, non, fils, je suis venu chercher les clés, donne-moi les clés. Et Satan dit, mais si je te donne les clés là, tu vas faire quoi avec? La Bible dit dans Hébreux qu'il partit dans les prisons et prêcha l'évangile à tous ceux qui étaient dans les prisons et les fit sortir. Et Satan dit, ok, il n'y a pas de problème, je te donne ça. Mais tu n'as plus de corps, je viens de tuer le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, tu n'as rien compris, Satan. Le problème, c'est que je suis Christ et désormais, je n'ai plus qu'un seul corps, j'ai plusieurs corps maintenant. Eh oui. Et ces corps-là, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'Église, les chrétiens. Jésus-Christ, le Christ, était confiné dans un corps, Jésus. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je m'en irai, je vous envoie le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, j'habiterai maintenant dans plusieurs corps. Et quand Satan va ça, il dit, oh punaise, j'ai fait une gaffe. Et Jésus-Christ dit, donne-moi les clés. Il prend les clés, il le finit. Dieu ressuscite Jésus. Et Jésus-Christ dit, avant de partir, il dit au revoir à ses amis, les disciples. Il prêche encore le royaume de Dieu pendant 40 jours. Et puis, ascension, il s'en va. Il est là, il est là ce soir où? À la droite de Dieu. Jésus est parti. Christ n'est pas parti. Christ est resté. Et Christ en chacun de nous. Et c'est pour cela que Jésus est devenu, Romains 8 au verset 19, Jésus est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Il est le grand frère. Et s'il est frère, nous sommes tous comme lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père et tous les miracles que j'ai faits, vous pourrez faire les mêmes. Donc si moi, je peux prier et le Père m'exauce, de même vous aussi, vous pouvez prier et le Père vous exauce. C'est pour ça qu'un jour, si tu es en train de rentrer chez toi à 2h du matin et qu'on t'agresse et que les bandits se tiennent devant toi, tu es capable de leur dire la parole que Jésus-Christ a dite à Pierre. Pierre, ne sais-tu pas que je peux invoquer des myriades d'anges et puis ils viennent tout de suite? Hein? Et puis quand on veut te braquer, tu dis, ne sais-tu pas que si je lève la voix, je prie sur toi là. Si je prie sur toi là, tu es fini. Frappe-moi, fais-moi du mal. Mais quand je vais aller plier les genoux chez moi, je vais être comme David, Seigneur, taille-les en pièces. Non, non, je ne vais pas les tailler en pièces. Seigneur, qu'ils se repentent au nom de Jésus. On fait tout avec l'amour. Amen. Voilà pourquoi le jour où tu es malade, il y a des moments où il faut supplier. Mais il y a des moments où tu fais, Esaïe 1, 18, tu plais, tu dis, Dieu, tu as dit que nous sommes ambassadeurs, tu as besoin de mon corps, tu dois me guérir. Si je meurs là, je m'en vais. Si je meurs, je m'en vais. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc la prière est extrêmement importante. Et depuis le jour où tout ça s'est passé, le Saint-Esprit est revenu sur terre. Et quand le Saint-Esprit est revenu sur terre, il habite, Christ par le Saint-Esprit habite maintenant au travers de chacun d'entre nous. Et chaque fois que tu pries, tu es en train de dire à Dieu, je te donne l'autorisation, Seigneur, d'intervenir dans ma vie. Je te donne l'autorisation de prendre possession de mon corps et de m'utiliser pour pouvoir accomplir ton but sur la terre. Et c'est pour cela que nous sommes en temps de jeûne et prière pour dire à Dieu, Seigneur, tu vois ce vase-là appelé la maison du bâtisseur, c'est-à-dire nous, Seigneur, utilise-nous pour pouvoir changer cette nation, cette génération. Voici notre prière, Dieu. Et comme Dieu veut changer cette nation, s'il trouve en nous suffisamment de foi, il va nous utiliser pour changer cette nation. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut incliner la tête? On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci encore pour tout ce que tu es. Merci encore pour tout ce que tu fais. À toi la gloire et à toi la louange. Merci encore pour cette parole, Seigneur, qui nous édifie et qui nous donne de l'intelligence et de la sagesse et qui nous fait comprendre combien il est important de prier, parce que chaque fois que nous prions, nous ouvrons une porte pour que tu puisses entrer dans notre circonstance, dans notre vie et faire, Seigneur, ce que tu as à faire. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Accorde-nous la grâce que nos desseins, Seigneur, soient associés à tes desseins, que nos prières, Seigneur, tu puisses les agréer et que tu puisses prendre possession de nos corps afin de pouvoir opérer légalement sur la terre au travers de nous, Seigneur. Merci parce que en Christ, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En Christ, nous pouvons maintenant avoir accès au trône de Dieu comme nous le voulons. En Christ, par la prière, nous pouvons monter au ciel et passer du temps avec toi au ciel, tranquillement, sans problème. Merci parce qu'en Christ, nous avons le Saint-Esprit et nous pouvons faire les mêmes œuvres que tu as faites. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons, Seigneur, redonner la vie aux aveugles et nous pouvons connaître les pensées de ton cœur. Accorde-nous la grâce de ne pas nous intéresser, Seigneur, à ce que tes mains donnent, mais à ce que ton cœur veut, à ce que ton cœur pense. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour cette parole qui nous fait comprendre l'importance de la prière. Enseigne-nous encore, Seigneur, au travers de tout cela, et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur, que chacun puisse rentrer chez soi, méditer sur ces choses et augmenter son niveau de prière et de connaissance de Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur.
espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.